Majid Cherfi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au Volcan. Je ne sais pas si c'est la première fois que... Alors, on se dit vous, on se dit tu, je ne sais pas trop. On a commencé par un tutoiement.
Moi, je tutoie,
bon,
après...
alors moi, ça ne m'embête pas non plus. C'est la première fois que tu viens dans cette librairie. Donc, tu es à la fois une plume, une voix, un accent. On t'a connu comme parolier et chanteur du célèbre groupe toulousain Zebda. Et puis comme auteur, puisque chez Actes Sud, il y a déjà 5 ouvrages qui sont parus. Le premier, c'était le livret de famille en 2004, puis La Trempe en 2007. En 2016, un gros succès avec Ma part de Gaulois, qui a été adapté au cinéma récemment. Le film est sorti en début d'année, si je ne dis pas de bêtises, par Malik Chiban. Et puis plus récemment, La part du Sarrasin. Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est un roman. C'est la première fois que tu t'essayes à ce style littéraire, avec La vie de ma mère. Avant d'évoquer ce roman et donc savoir pourquoi il y a un changement de style, enfin de moins de nature du livre, quelle place occupe l'écriture? J'ai l'impression que vivre sans écriture, c'est pas possible avec tout ce que je viens de dire.
Je crois que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça parce que c'est un soin. J'ai fini par comprendre que c'était une thérapie pour moi. Et alors quand vous naissez dans les quartiers populaires et que vous êtes un peu grassouillé, timoré et mauvais en foot, il vous faut quelque chose. Et être mauvais en foot dans les quartiers populaires, c'est une véritable condamnation. Et j'ai été condamné donc sur le banc de touche à éplucher quelques agrumes pour mes camarades.
Pour la mi-temps.
Au moment de la mi-temps. Et donc, alors... Ou bien vous avez le privilège d'une arme qui vient à vous, ou vous ne l'avez pas. Et on peut vivre comme ça, désarmé. Et j'ai eu le privilège de cette arme-là qui m'est venue beaucoup par ma mère, puisqu'elle nous a, mes frères et moi, kidnappés dès l'enfance. Elle avait une obsession pour la réussite scolaire. Et donc elle a organisé très vite une armée secrète formée d'assistantes sociales, d'éducatrices de rue, d'éducatrices en économie familiale. Des gens qui venaient expliquer à nos mamans comment gérer le budget familial. Je crois que ça existe encore, non? Oui, ben oui, voilà. Et les quartiers d'ailleurs sont toujours là, ces fameux quartiers. Le curé du quartier, les religieuses qui étaient là, alors qui étaient plus des infirmières, en fait, à jouer le rôle d'infirmière pour nos mamans. Et donc j'ai passé ma vie, avec mes sœurs, mes frères, on a passé notre enfance avec tous ces Français qui tournaient autour de la maison. Et de soutien scolaire, en fait, soutien scolaire tous azimuts. Et maman n'admettait pas qu'il puisse y avoir Noël, Pâques, juillet, août, qui étaient des vacances pour nous. Pourquoi ces mômes auraient des vacances? Elle était ahurie, et donc je n'ai pas connu Noël, Pâques, juillet, août pendant longtemps, quoi. Et c'était marrant de voir la cité déserte et puis des gens venir à la maison et nous parfaire des imparfaits du subjonctif. Je suis d'ailleurs champion d'Europe 3 fois de conjugaison. Voilà pour raconter l'écrit. Jusqu'à ce que tout à coup vous vous apercevez que c'est une arme et d'abord contre vos parents. Puisque, évidemment, nous avions des parents algériens, illettrés, donc ne sachant ni lire, ni écrire, etc. Et tout à coup, on s'est rendu compte avec mes frères qu'il y avait tout ce courrier qui arrivait, il fallait leur lire, et en fonction des humeurs, on manipulait tous ces formulaires un peu comme on veut. Le Graal étant le bulletin scolaire trimestriel. Alors, vous imaginez.
Alors, qu'est-ce qui est écrit là? Très bien.
En maths, voilà. Il y a marqué 18, maman, en maths. Ils ont dit que c'était très bien.
Donc, c'est un pouvoir, ça, quand on est enfant.
C'est un pouvoir. C'est un pouvoir donc, qui plaît. Et donc, moi, ça m'a plu, ce pouvoir-là, sur mes parents. Puis après, il y a eu les petits poèmes qu'on écrit aux filles de la cité. Et comme les copains étaient au foot, la rue était désertée de mecs. Et donc j'avais 10-15 filles rien que pour moi, à qui j'écrivais des poèmes, et c'était extraordinaire. Et puis ensuite, la chose intéressante, c'est au lycée, la mécanique politique qui s'est mise en marche, et la question, pourquoi on écrit? qu'est-ce qu'on écrit. Et notamment dans Zebda, quand j'ai fait le chanteur, je me suis posé la question, on est un groupe de rock.
Qu'est-ce qu'on fait passer comme message?
Qu'est-ce qu'on fait passer comme message?
C'est l'écriture. Et alors, est-ce qu'il y a des auteurs dans la maison familiale? Est-ce qu'il y avait des livres? Est-ce qu'il y avait des auteurs...
Il n'y avait pas de livres.
Il n'y avait pas de livres.
Il n'y avait pas de livres. Et je vous dirais, 40 ans plus tard, dans les quartiers populaires, je défie quelqu'un de trouver des livres dans ces quartiers-là. Il faut quand même le dire. Il y avait un taux d'échec scolaire invraisemblable il y a 40 ans. Je crains qu'il soit resté le même aujourd'hui.
Donc l'accès à la lecture, est-ce qu'il se faisait par, alors, par évidemment, l'école, les bibliothèques?
Les sœurs m'ont indiqué le bibliobus qui venait dans le quartier. Il stationnait au bas des bâtiments et c'est là qu'était ma librairie. Et j'ai le souvenir de personnes entre 60 et 98 ans venant chercher des livres, point de jeunesse à l'horizon. Je charrie un peu, il y avait une ou deux filles un peu premières de la classe qui fréquentaient ce bibliobus. Et voilà, et c'est là que j'ai trouvé la lecture, quoi.
Et après, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des personnages de la littérature française, du coup, qui t'ont aidé à te sentir plus français, d'identifier à certains?
Oui, fondamental, c'est au lycée que tout se passe. Alors donc, on découvre Flaubert, Balzac, Hugo. Hugo, Maupassant, etc. Et alors, ou bien on adhère à cette littérature, ou bien ça passe pas. C'est pas que j'entendais rire, mais pardonnez-moi. Alors, moi j'ai compris que, parce que si vous voulez, nous, fils d'immigrés algériens, on n'a pas de patrimoine, on n'a pas d'histoire. Et souvent on nous a raconté que nous avions de la chance, nous, immigrés, fils d'immigrés, d'avoir deux cultures. Et pendant des années, je cherchais, mais où est ce fameux privilège de deux cultures? Et en vérité, c'est du cinéma. Nos parents illettrés connaissaient à peine le prénom de leurs grands-parents. Ils n'avaient aucune espèce de quelque référence que ce soit de leur propre histoire, de leur langue, etc. Et moi, mon père, d'aussi loin que je remonte, me racontait en guise de culture ou de mémoire, cette année, qui étaient les 7 années de la guerre d'Algérie. Et tout ce que moi j'ai gardé de l'Algérie, c'était 7 ans de guerre. Alors que la France, elle, m'avait proposé 2000 ans d'histoire, avec à l'intérieur siècle des Lumières, etc. Et donc, on a été intensément, immensément français, et en vérité, si peu algériens, ou arabes, ou maghrébins. Et puis pour nous rassurer, pour nous consoler, des gens de gauche nous ont dit « Mais il y a eu un âge d'or du monde arabe !» Et on nous a parlé des Omeyyades, des Abbassides. C'était un peu Alibaba au cinéma, quoi. Et donc c'est pas vrai qu'on est raccroché à cette histoire. Et plein de gens essaient de nous consoler à nous, pauvres maghrébins, en nous racontant que nous avons eu une histoire. Alors que il y a peut-être eu cet âge d'or. Mais il y a quelque chose qui s'est coupé, qui a fait que nos proches à nous, parents, grands-parents, sont nés dans la cendre et sont morts sous la cendre. Et donc on a à peu près hérité de rien de ce côté-là. Et cette fameuse littérature classique, eh bien, elle nous a apporté une langue, un territoire, un peuple, j'ai failli dire. Et c'était comme si on s'appropriait quelque chose dont on avait besoin. Et je dois vous dire que enfant à l'école primaire, on nous a raconté nos ancêtres les Gaulois. Mais la vérité, c'est que nous étions heureux qu'on nous en propose des ancêtres. Et qu'ils aient été blonds et tressés ne nous dérangeait pas du tout. Surtout que, bon, on dit que les Kabyles sont blonds aux yeux bleus. Et... il m'est arrivé d'en trouver, mais pas si nombreux, des Kabyles. Ça me paraissait intéressant à raconter, de dire, mais on a aimé, nous, cette France qui a voulu de nous le temps de l'enfance. Et puis après, il y a l'éveil à la réalité, Et c'est là qu'on décide de plus vouloir de ses ancêtres, parce qu'on se rend compte que mais nos parents n'ont pas été voulus. Ils ont toujours été étrangers, on a toujours attendu qu'ils partent, et 80 ans après, le sentiment qu'on attend qu'ils partent. Ma mère, à 85 ans, se demande encore si elle va être expulsée. Quand elle entend le mot Le Pen, on voit presque sa main accrocher une valise. Et on a eu beau la consoler en lui disant qu'on était français, désormais définitivement français, il y a quelque chose de particulier.
Cette crainte, elle reste, ouais.
Oui, qui est lié aux musulmans, aux maghrébins, aux africains aussi. Vous, ça ne passera pas. Mmh. Et donc il y a eu toutes sortes d'immigrations italiennes, espagnoles, portugaises. Il faut un temps, ça passe. Et nous, après près d'un siècle, ça ne passe pas. Et je dois vous dire que moi qui fréquente des classes, j'interviens dans des classes, je vois ces jeunes maghrébins de troisième génération de 14-15 ans. Et je demande s'il y a des Français. Jamais je n'ai vu un doigt se lever d'un de ces mômes s'identifiant naturellement à la France. Et ils sont là. Non, non, moi, monsieur, je suis malien. Moi, je suis sénégalais. Moi, je suis algérien, monsieur. Et je me dis, merde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
En termes d'identité, oui, qui ne fonctionne pas. Ouais. Bon, tout ce qu'on vient déjà de dire, c'est important parce que c'est un roman aussi sur la langue. On va expliquer un petit peu le livre, sur la recherche d'une langue commune, d'un fils et de sa vieille mère. Parce que la vie de ma mère, elle a à peu près l'âge de votre... ou de ta maman.
De ma mère, oui. Mmh. Et le fils, donc, est un quinca plus.
Quinca plus.
Le héros a plus de 50 ans.
Voilà. Alors, ce héros, ce personnage, il est à un moment un peu charnière de sa vie, puisqu'il vient de se séparer de sa femme. Il est père de deux grands-enfants, mais qui sont indépendants, mais qui reviennent souvent chez lui. Donc, il n'est pas vraiment seul. Il a un peu envie de souffler à ce moment-là de sa vie. Il a eu un foot... il est cuisinier. Donc cuisinier, c'est faire la cuisine, ça c'est sa part, on va sûrement y revenir, de féminité. C'est pas innocent s'il est cuisinier. Et il a un food truck où il fait des expérimentations culturelles, culinaires et culturelles.
Des burgers suisses aux kurdes.
Suisses aux kurdes et différents mélanges qui lui valent des fatwas culinaires, pour reprendre une belle expression. Et donc le livre s'ouvre, alors c'est un roman, mais il y a beaucoup de choses qui ont été vécues, entendues. Tu restes dans la région toulousaine. Le livre s'ouvre sur... C'est un enterrement dans l'Ariège, donc au pied des Pyrénées, et c'est le père de son meilleur ami. Et là, il rencontre la mère de son meilleur ami, donc la veuve, et lui est fâché avec sa maman depuis plus de 8 mois, il ne l'a pas vue, et il décide de faire la paix avec elle et d'essayer de savoir qui est cette femme. C'est ça, en fait.
C'est exactement ça. Presque 60 ans, il se dit, je dois faire connaissance avec cette femme qui est ma mère.
Et je dois faire la paix.
Et la paix, donc.
Parce que moi, j'entends beaucoup, j'ai beaucoup entendu que ce livre, il était tendre, il était tout ce qu'on veut. Moi, je l'ai trouvé dur.
Oui, je suis plutôt d'accord avec vous.
Je ne vois pas trop la tendresse. Les personnages sont durs, les relations sont dures.
Oui.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais tout est quand même assez...
Oui, c'est une mère impitoyable.
Impitoyable. Et d'où alors, peut-être aussi le point d'exclamation dans le titre. Et donc, c'est ça qui est important, c'est de faire la paix, peut-être pour devenir aussi un autre père à son tour. Il faut faire la paix avec celle qui vous a donné la vie.
Oui, il faut faire la paix parce que il se dit il faut que je sache, c'est pas possible que cette femme n'ait été que mère. Et donc, parce que. Alors, je vous donne un peu la
génèse. Oui, alors voilà, c'était ma question au départ, c'est d'où est venue cette idée. Voilà.
Oui, alors, il y a une vingtaine d'années, donc je me retrouve face à face avec maman, et elle me dit, tu sais, quand on est arrivé les premiers temps, donc la fin des années 50, on était dans ce camp, et il y avait un beau gitan au regard ténébreux. Elle me dit, c'est en kabyle, je l'ai traduit comme ça. Et tout de suite, tétanisé tout de suite. Quoi ? Elle fait part de désir, d'amour, de sentiments. Et j'ai tout de suite fermé ma mémoire. Je ne voulais pas en savoir plus. Et donc, c'est l'histoire d'un fils qui veut savoir qui est sa mère, mais qui en même temps est terrorisé à l'idée de ça. Et alors, ces 20 dernières années, par petites touches, par exemple, elle évoque mon père et elle le regarde, il est assis là devant la télé, il regarde son juste prix, et c'est juste un coup de menton. L'autre con. Et là, je referme ma mémoire, je ne veux pas savoir. Parce que pour nous, pauvres fils d'immigrés, on se dit, nos parents se sont mariés, elle avait 14 ans, lui 17, ils sont restés 70 ans ensemble, que c'est beau. Et on veut croire que ce fut un amour sans accroc. Et en fait, la réalité, c'est que ça n'a été que des accrocs, mon fils. Tu es assez grand maintenant pour l'entendre. Et donc, une dernière. Je suis à côté d'elle. Elle fait sa prière. Moi, je suis là, j'attends. Elle finit sa prière, un soupir. Ouh. Plein le cul. Hey, maman, tu crois plus à Dieu ? C'est génial ! T'es comme tous tes enfants. C'est une mère qui a 7 enfants athées. Donc le désespoir pour elle, c'est l'enfer qui l'attend. Parce que si vos enfants sont pas, s'ils ne croient pas, vous payez pour eux. Alors c'est une des traductions de maman. Après je sais pas trop dans les versions, les différentes versions de ce que peut être l'islam. Et donc au bout de toutes ces de tous ces accros. Là on est dans le réel, je me dis mais il y a quelque chose derrière tout ça. Et en même temps, alors donc le livre est né de ça, de cette idée que une femme va naître aux yeux de ses enfants qui ont cru qu'elle n'a été que mère alors qu'il y avait une femme planquée derrière qui avait du désir. Alors moi là où je romance, c'est que il y a ce parcours initiatique, où elle se met à porter un pantalon, des Adidas, elle se fait couper les cheveux, je dis pas tout.
Non, on va pas dire.
On va pas tout dire. Tout ça, c'est faux. C'est ce que maman aurait aimé vivre et qu'elle n'a pas vécu.
On va pas tout dire, mais...
C'est pourquoi on l'appelait roman, parce que j'ai anticipé ce qu'elle aurait aimé être et faire.
Et puis, alors, il y a la femme, mais il y a la colère, surtout. C'est que les relations, c'est au début du livre, hein, du moins, je sais pas, on va rester dans le livre, c'est que les enfants ont toujours peur de prendre une balle perdue, on dirait.
Ouais, oui.
Voilà, on peut pas avoir de communication puisqu'on sait pas, on attend toujours.
Oui.
On se méfie de tout.
Alors, elle est en colère parce que elle s'est battue pour les élever, donc ils ont eu des parcours plus ou moins universitaires, etc., intéressants, et elle leur reproche qu'on lui ait pas rendu la monnaie de la pièce, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas, elle non plus, appris à lire, à écrire, qu'on lui ait pas permis de travailler, d'avoir une fiche de paie, voire de l'aider. Aidez-moi, vous voyez pas que je veux divorcer avec lui, là, qu'on appelle papa. Non, on l'a pas vu, et surtout on voulait pas le voir. Et elle nous reproche tout ça. Ah, parce que tu aurais divorcé ? Ben oui ! Et je n'aurais pas eu 7 ou 8 ou 9 enfants avec les fausses couches, etc. J'en voulais 2 ! J'en voulais pas 50 ! Vous ne m'avez pas aidé. Et donc, il y a cette colère d'être restée une femme fragile, soumise, illettrée. Et donc, toute sa vie, elle passe à le rentrer dedans. Parce que vous, vous êtes élevé, qu'avez-vous fait de moi ?
Et c'est la même chose côté garçon que fille. C'est-à-dire que ces filles aussi, il n'y a pas de solidarité ou de se dire, tiens, pourquoi on reproduit en fait aussi dans la génération ces rapports.
Absolument. Et je voulais raconter ça, parce qu'il y a cette mythologie qui veut que ces mères aient eu beaucoup d'enfants. D'ailleurs, ma mère m'avait dit, alors j'avais 17 ans, elle me dit, ne crois pas les mères qui racontent qu'elles aiment tous leurs enfants. Vous avez 17 ans, vous vous dites, putain, on n'en aime qu'un connard. Après, on est fatigué. J'ai repensé à toute sa vie, je dis, ben oui. Est-ce qu'on peut élever 9 enfants dans la gaieté, la douceur, l'amour et l'humour? Non. Surtout quand on est dans ces milieux, fragiles, misérables. Dans les milieux misérables, on n'aime pas. On fait l'effort pour un. Et effectivement, toutes les mères que j'ai croisées racontent qu'elles aiment tous leurs enfants. Et vous voyez au quotidien, mais c'est pas vrai. Ça gerbe la progéniture et réciproquement. Et que ça, c'est une vérité. C'est une vérité de la misère. De la misère, non, c'est pas permis d'aimer parce que voilà, parce qu'on est usé. Et elle me dit, c'est toi que j'ai choisi. Oh putain! Parce qu'il en faut un pour être la canne. Et effectivement, il faut en choisir un parce qu'on les tâte un peu comme dans les laboratoires, comment on appelle ça? Des cobayes. On les tâte comme des cobayes, on voit celui qui est un peu musclé.
Qui sera le plus résistant.
Résistant, oui, oui. J'ai trouvé ça tellement vrai.
Et ça fausse tout aussi dans les rapports de frères et sœurs, tout ça.
Absolument, absolument. Alors, les filles, bien sûr, pour les filles, elles étaient elles-mêmes en colère parce qu'elles ont rêvé elles-mêmes. Donc, elles ont fait un petit peu d'études comme ça. Elles se sont élevées, rêvées d'être libres, autonomes, aériennes, littéraires, voyageuses, vagabondes. Bon. Et tout ça finit dans une cuisine avec des marmots dans les jambes et des poils entre les mains. Même avec tout ça. Et au bout du compte, on est la femme d'un mari qui regarde le juste prix.
Ouais, et c'est la mère qui dit « Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Tu n'as pas pris la pilule ?»
Exactement.
C'est exactement. Le comble, c'est ça aussi.
Exactement. Et parce que c'est pas facile d'être une femme libre, tout simplement, d'autant plus qu'elles ont hérité de ce qu'elle leur a transmis, c'est-à-dire à la fois la modernité, mais en même temps, je veux que mes garçons fassent de longues études, et les filles, pas trop. Parce que quand on fait trop d'études, on peut pas se marier. Et donc on infuse une terreur chez la fille, et donc il y a... Voilà, c'était... Pour nous, c'était soyez solidaires avec vos sœurs, mais soyez des hommes. Et donc, on s'est promené avec une triple schizophrénie permanente, qui est en vérité le lot de tous ces enfants de l'immigration de seconde génération et de leur progéniture.
Donc, si je reviens dans le livre, cette maman, alors son prénom, c'est
Taos.
Taos. Et alors, Taos, ça veut dire...
Le pain.
Ah, d'accord. Moi, j'avais vu quelque chose sur la tête, un...
C'est
le pan, d'accord. Donc elle porte.
Voilà.
On verra
c'est son prénom.
Son et donc elle est mal en point, cette maman physiquement.
Elle est mal en point physiquement.
Donc Slimane, le personnage principal, va prendre un peu sa santé, enfin les choses en main, et l'amener passer des examens. Et du coup, c'est ça qui va au départ les rapprocher.
Oui.
Et il y a une scène, moi je trouve très belle, un peu le début de l'émancipation, c'est dans le restaurant chez Brahim.
Oui.
Où on peut peut-être raconter un petit peu cette scène, comment elle est née. On n'en dira pas plus sur l'émancipation de la maman, jusqu'où elle ira. Mais donc pour faire plaisir à sa mère, parce qu'il y a toujours ça, essayer de quémander un merci, un sourire, un c'est bien mon fils, qu'elle soit fière de son fils, quoi. Bah, je vais l'amener manger un couscous dans un restaurant. Et là, le mépris total, elle prend des frites et de la salade. Donc, incompréhension du restaurateur. Elle les mange à la main, la graisse qui dégouline. Et là, le fils, il comprend un peu ce qui est en train de se passer dans la tête de sa mère. Et pour la première fois, il est fier d'elle.
Oui.
Et il comprend un peu tout ce qu'elle n'a jamais dit. C'est beau comme scène de passé. En fait, dans ce livre, beaucoup de choses sont dites au moment de autour de la nourriture. On communique avec la nourriture. On fait un couscous pour essayer de se rassembler. On mange des frites à la main pour dire qu'on veut plus de cette vie quelque part. C'est ça. Il y a
ce rapport
à la.
Oui. Alors tout à coup, à plus de 50 balais, au resto.
Oui,
c'est maintenant
que tu
fais. C'est le non-dit. Hein, le sous-texte. C'est maintenant que tu m'amènes au resto, comme le bouquet de fleurs. On est là, on grandit. Il n'y a pas idée d'apporter un bouquet de fleurs. Tous ces petits gestes qui sont... Et alors, elle rentre et puis... Alors, parce qu'elle veut régler, ses comptes avec les hommes, puisqu'elle a été piétinée par son mari. Ses frères, ses beaux-frères, son père et son beau-père, version kabyle. Bon, elle a 18 ans, je crois, quand elle quitte un village kabyle. Alors, piétinée par une société algérienne, pour finir piétinée par une société française. Donc, elle a la rage à la fois contre, on va dire, les musulmans et puis les blancs ou les chrétiens. Les deux lui vont pas. Et donc, ce resto, c'est l'occasion de régler les premiers comptes. Et elle regarde ces mecs. Vous prétendez faire un couscous, vous, qui mettez vos mains, Dieu sait où. Donc, elle leur accorde pas la crédibilité de cette graine, qui est symbolique. Et donc, elle se venge. Et tout passe par la vengeance, quels que soient les hommes, médecins, des rangs sociaux plus élevés ou plus bas. Je règle mes comptes avant la fin. C'est aussi ça, son parcours.
Et alors, donc, je parlais de langue. Je ne sais pas, avec ta maman, vous alternez le français, le kabyle, l'arabe, ou vous parlez comment ?
Donc, elle est kabyle, et depuis une vingtaine d'années, c'est moi qui m'efforce à lui parler en kabyle, le peu que je... Parce qu'elle a démissionné de la langue française. Avec le temps, désabusée par cette ingratitude française, que ce soit lui avoir permis de se défendre contre son mari, de lui avoir permis, donc elle n'a pas été protégée. Et pourquoi je vous disais ça ?
Sur le comment vous parlez pas en kabyle ?
Oui, voilà. Et donc, par exemple, elle s'est mise à tordre les noms propres français, entre autres. C'est sa vengeance, voilà, c'est ça.
Comme celui du président.
Exactement. Je peux la raconter, ça.
On peut raconter.
C'est pour leur faire plaisir.
Oui.
Non, je vais vous le lire.
Ah ben, c'est ce que je voulais... Oui.
D'accord.
Alors, je sais pas...
Parce que je suis venu vous faire plaisir, pas vous parler, en vérité. Dire, bon... Ça, je pense qu'on peut le lire sans crainte. Maman était accrochée à la télécommande. La chaîne dégueulait des sondages et qui qualifiait Macron et Zemmour au second tour. Elle maugréait « sale race » sur un ton de colère impuissante et là, au débotté, comme si nous avions entamé un débat une heure plus tôt, « the question ». C'est quoi ça, ma croûte ? Tu veux dire Macron ? Oui, c'est bon pour nous. Elle doutait, parce qu'elle pensait aux 50 € qui venaient de lui être retirés de son APL. Je te confirme, c'est une loi Macron. Il nous avait fallu 2 décennies à mes frères et à moi pour lui faire intégrer la notion de gauche. Une de plus pour la droite, et je me suis rendu compte que je ne savais pas où précisément situer le macronisme sur l'échiquier idéologique. Ben alors ! Attends ! Et je n'avais pas l'intention de me lancer dans un cours magistral. Je cherchais plutôt à abréger l'explication quand une idée lumineuse m'est venue. C'est le centre ! Le centre ! Elle a réfléchi un peu et d'un coup s'est écriée « Ah ! Le centre commercial ? Oui ! Oui, c'est ça ! Macron, c'est le centre commercial ! Bravo, maman !»
On va en redemander. Hein. Justement, tu lui as lu à ta maman tes livres ?
Alors, en fait, on ne peut pas vraiment lui lire parce qu'elle saisirait pas les nuances, les seconds degrés, le sous-texte. Donc, mes sœurs lui font des résumés.
D'accord.
Mes sœurs me lisent goulûment. Mes frères n'ont pas ouvert une page, terrorisés à l'idée de qu'est-ce qu'ils racontent sur la famille. Et je les regarde depuis 15 ans en attendant de prendre une patate dans la gueule. Parce qu'il y a toute la difficulté de l'écriture autobiographique.
Ouais.
C'est que vous dévoilez l'intimité de vos proches. Et donc c'est terrible, à chaque fois que je m'y mets, il y a presque la douleur d'avoir à raconter des choses douloureuses, justement, parce que c'est autobiographique et ça se passe en milieu misérable. Que voulez-vous en guirlande, qu'est-ce que vous voulez rendre brillant? Rien ne l'est. Et donc le terrain même de mon écriture est un désastre et il faut aller là pour extirper une inspiration. Et je croise très régulièrement des gens qui viennent me dire « Hein, le mec qui dit là du shit, c'est moi !»« Non, c'est pas toi, je t'assure !»
C'est ce que j'allais dire, parce que même par la fiction, les gens vont se reconnaître dans des personnages qui ont été peut-être pas... qui sont pas eux.
Oui, et je vis... Alors, comme j'habite pas très loin des quartiers nord, depuis 15 ans, je risque de me faire péter les dents de devant à tout moment comme ça. Eh, le mec avec la Mercedes, ça qui est pas assuré, c'était moi. Non, non, c'est pas toi, bam. Donc j'ai évité le pétage de dents, mais avec ma femme et mes enfants, on a quand même vécu de vraies terreurs. De vraies terreurs, et avec des... Et je suis poursuivi, je crois, encore pour... quand on dit du mal des gens...
Diffamation.
C'est elle qui l'a dit en premier. Et j'ai des diffamations de partout parce que tout le monde se voit dans mes bouquins. Et c'est une réalité aussi d'auteur d'autobiographie. Comme si, alors, moi, je fais en sorte de romancer à mort quand même. Je ne veux pas être comme ces auteurs qui fusillent leurs proches dans les romans.
Mais ça reste toujours, même le cadre, je disais au début, on reste à Toulouse, on reste dans les Pyrénées.
Oui.
T'as pas envie d'aller...
Non, j'ai pas envie, je trouve que j'ai encore 10 bouquins à faire sur Toulouse et les immigrés du nord toulousain. Et depuis 15 ans, des gens viennent me voir et me disent, vous voulez pas... Et je comprends, vous voulez pas... Je sens une espèce de racisme un peu latent, presque. Vous voulez dire quoi? Raconter des personnages de Français, blancs, qui sortir de cette, de ce poison qu'est l'immigration, etc. Non, j'ai pas le temps de tout écrire. Je me suis promis une saga de l'immigration. J'ai un certain âge, je n'ai écrit que 5 bouquins. Je devrais en être à 30 si j'avais été moins zebda, d'ailleurs. Moins de concerts et plus de livres. Oui, je suis... Et parce qu'il y a beaucoup à raconter. Parce que je vais vous dire, je pense que nous n'existons pas dans le récit français. Nos grands arrière-grands-parents et leur guerre de 14-18 n'ont pas existé. Ce qu'ont fait la guerre de 40 n'ont pas existé. Nos parents qui ont bâti la France n'ont pas existé. Nous qui avons marché en 83 et rencontré Mitterrand pour réclamer l'égalité des droits, cette marche a disparu de l'histoire. Et les enfants qui viennent derrière ont ce sentiment, d'où leur colère, d'où leur repli, d'où d'ailleurs cette espèce de... d'inspiration religieuse, aspirés plutôt. Ils sont aspirés par ce truc un peu fondamentaliste, un peu craignos. Et même, excusez-moi, je parle dans tous les sens, mais je vais souvent dans des classes. Et là, ces derniers temps, je me souviens de 4 filles qui se sont levées. Monsieur, on a lu sur l'Wikipédia, je suis un peu con sur les bords quand même, que vous ne croyez pas en Dieu. On est offensés, elles se sont levées, elles sont sorties, et la prof était tétanisée. Et là, je dis, là, ouais, on est mal. Voilà, je fais un pas de côté, je ne sais plus où j'en suis.
Non, pas du tout, d'où la nécessité d'écrire, de continuer
absolument,
à décrire, absolument. C'est surtout ça. Et alors, justement...
Oui, donc pour exister, pour dire, chers Français, des Français sont passés par là, et vous ne les avez pas vus passer. Donc, presque une double motivation pour écrire cette histoire de Français qui ne sont pas considérés comme tels, qui croient l'être et qui ne le sont pas dans le regard de l'autre.
Et si je reviens sur ce travail d'écriture...
Oui.
Tous les jours, tu écris? Est-ce qu'il faut un rituel? Est-ce qu'il y a quelque chose?
Non,
est-ce que...
non, chez moi, ni la nuit, ni très tôt, ni très tard... Et quand je me suis mis à écrire, ma femme m'a dit « Tu fais pas l'artiste à la maison, je t'avertis. » Et donc j'ai écrit avec deux, trois membres à mes jambes, avec le boucan. Et je me suis habitué au boucan et à la vie familiale sans dire « j'aimerais avoir un petit peu de silence, j'écris ». Voilà ma réalité. Et on y arrive quand on tient à son conjoint, attention.
Du coup, il y en a un prochain qui est en cours, toujours en cours.
Alors écoutez, il y a cette obsession des gens très sympathiques qui me disent « et le père ?» Puisque je ne parle quasiment jamais de mon père. Et même si je pense que ces pères-là ont été absents de nos vies et que nos vrais pères étaient nos mères, il y a quelque chose à raconter. Raconter l'absence. Donc il y a peut-être une piste à travailler. Et puis j'avais une idée, nous serions dans une certaine France, il y aurait 7-8 millions d'immigrés maghrébins et noirs, et on déciderait de notre plein gré de partir de la France, on les a assez fait chier. Et je pense que le titre serait « On les a assez fait chier ». Et la sensation de ne pas être retenu par le bras en partant. Et l'idée du plein gré me paraissait assez cocasse. Si vous avez des idées, écrivez-moi. Oh, elle n'est pas con, ton idée, Majid. Il ne serait pas beaucoup à vous retenir. Alors, et puis, plus on avance, plus je vois, encore ce matin, je vois Bardella à 30. Je dis non, il faut que j'écrive cette histoire. Ouais. On les a assez embêtés.
Alors, il y a le père de la génération du dessus absent, mais Slimane, lui, il s'interroge en tant que père. Parce que, justement, par rapport à sa mère, il veut être un père aimant, il veut être un père un peu idéalisé. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'à la fin, ses enfants lui disent non, vas-y, t'as le droit de... t'as le droit de nous foutre une claque, t'as le droit de nous foutre dehors, t'as le droit d'être un peu... Tu peux pas être que qu'amour et compréhension.
C'est intéressant parce que, enfin c'était intéressant pour moi parce que, voilà, c'est le père a un parcours et puis les mômes aussi sont universitaires. Et alors lui a quand même couru derrière ce graal qu'est être français. Et la vérité, c'est qu'on court derrière ce graal. C'est tout à coup, sans effort, et dans le regard de l'autre, on serait français. Et alors ce Slimane, à travers tous les livres d'ailleurs, il essaie d'être... C'est pour ça que je vous parlais de l'imparfait du subjonctif. En fait, c'est une façon de dire « c'est bon, je suis assez français ». Et on court derrière un tas de trucs pour lire dans l'œil de l'autre l'évidence. L'évidence. Et les mômes, eux, mais nous on en a rien à foutre de plaire ou de pas plaire. On est français et donc on se permet le droit de ne pas vouloir être français. Certes, avec des pavés. Donc, ils ont cette liberté-là. Toi, tu cours pour essayer de séduire cette France des lettres, des valeurs républicaines, du respect du féminisme, de l'antiracisme, des valeurs progressistes, et avec ton Flaubert, ton Brel, ton Brassens. Oui, t'es français. Et donc, et les fils, nous, on s'en fout. On l'est. Et si on déplaît, voilà. Et c'est ce que j'ai voulu montrer.
D'où après un rapprochement avec la grand-mère aussi, qui à un moment arrive au même constat.
Oui, parce qu'il a écarté la mère, parce qu'il ne voulait pas faire peser cette espèce de névrose de l'immigration, de l'identité, de l'exil. Ah, on est des Arabes, c'est quand même une charge, même avec Bac plus 5, bon, il y a quand même ce truc sur le dos. Pourquoi vous disais-je cela ?
Moi, je disais, c'est que, en fait, à la fin, la mère déplaire, c'est plus le propos. C'est de poser. Elle est comme ça. Et à un moment donné, dans sa vie, son identité, je sais pas, mais elle est ce qu'elle est.
La mère.
Oui, la mère. Donc, d'où le rapprochement aussi avec les petits enfants.
Oui. Donc il l'a écarté. Voilà, je retrouve l'idée. Il les a écartés de ce pan-là. Et puis donc c'est le conflit parce que tout à coup, quand il s'aperçoit qu'elle est très mal en point, il veut s'occuper d'elle, et ils entendent parler d'une grand-mère qui n'a jamais existé. Et donc, dans le conflit, pour qu'on ait une grand-mère, il faut encore que tu aies une mère. Et donc, voilà, c'est ce rapprochement qui est tenté par les mômes qui... nous, on veut bien avoir une grand-mère, on n'est pas forcé d'y faire allégeance. D'essayer de lui plaire. Donc, c'est un peu le désastre de ces familles qui savent plus où, voilà, qui sont sur des terrains erratiques, rapport à l'exil, rapport à l'identité. À l'identité bon, voilà, c'est ce que j'ai voulu raconter à travers les petits-fils, cette mère, voilà, la seconde génération.
Ouais. Et puis voilà, la mère qui va finir par être acceptée pour son identité à elle et même trouver une langue avec un infirmier. J'aime bien aussi ce passage où finalement la langue commune, c'est celle des médicaments dont elle écorche les noms. Oui. Et un truc très bon, anecdotique, mais une femme qui ne sait pas lire, eh ben, elle peut savoir lire grâce au pilulier parce qu'elle va reconnaître...
Et qu'en réalité, parce qu'il y a toujours cette idée d'être français, qu'il faudrait le mériter... Moi, je vois ma mère ne sait ni lire ni écrire, à peine parler français. Mais elle a eu un parcours exemplaire, elle a fait chier personne. Qu'est-ce que vous nous emmerdez ? Alors, elle aime une certaine France, celle du département, les services sociaux des différents départements, hein, avec les soins, voilà, tout. Elle aime une France qui lui a permis un certain nombre de choses. Elle en déteste une autre qui lui a pas permis de s'émanciper comme elle l'aurait aimé. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire.
Alors, moi, j'ai perdu le début aussi. Sur le fait de ne pas savoir lire.
Oui, absolument. Tu as surgrave. Voilà, c'est une connerie. Être français, c'est aimer la France. Et ils nous font chier. Ils nous font chier. Alors, évidemment, beaucoup d'entre nous ne l'aimons pas. C'est vrai. Juste une espèce d'adoption comme ça. Mais parce que... il y a ce sentiment que si on partait, on ne serait pas rattrapé par la manche. Et cette blessure fait une hostilité. Il ne suffit pas de dire, oui, tous ces membres, bon, ils penchent sur l'islam, ils dégomment les valeurs républicaines. Non, encore eût-il fallu que les valeurs républicaines, ils les aient palpées. Ils les aient palpées. Et moi, j'ai le souvenir, en tant qu'homme de, j'allais dire de gauche, alors que je ne sais plus ce qu'il veut dire ce mot aujourd'hui. Très franchement, même François Mitterrand avait parlé de seuil de tolérance. C'est-à-dire que le jour de mai 81, le jour de la lumière, le caveau s'est refermé en même temps. Mais c'est quoi ce seuil de tolérance ? Avant d'exister, on est déjà trop. Et puis Rocard avec la misère qu'il ne faut pas accueillir. Et nous, on sait d'où on vient du tiers-monde. On se sent interpellé, on lit entre les lignes. Fabius qui dit, oui, mais le Front National pose de bonnes questions, il donne de mauvaises réponses. Il ouvre la porte, alors je vous passe tous les hommes de gauche parce que ceux de droite ne m'intéressent pas, et on finit avec François Hollande qui vient préconiser, vous allez m'aider, oui, j'ai besoin d'aide, bien sûr, la déchéance de l'année. J'ai envie de te donner un chocolat, si j'en ai, parce que je regarderai tout à l'heure. Un homme de gauche préconise la déchéance de la nationalité. Ces gens oublient que nous lisons entre les lignes, qu'il y a longtemps qu'on a compris le sous-texte. Et donc cette déchéance de la nationalité, bien sûr que tous ces hommes la vivent comme tu vises l'arabe et le noir. C'est pas vrai que c'est pour l'immigration espagnole, italienne, ukrainienne. C'est pas vrai, mais on le sait. Même vous, vous voulez pas de nous et vous voudriez que nous adhérions aux valeurs de la République, ça marche pas. Et pourquoi je vous dis tout ça ? Je sais pas. Pardon. Je suis quelqu'un qui digresse. Voilà. Parce que dès que j'aborde un sujet, quelque chose part de côté. Comme mon père qui a 12 ans, il me prend dans je dois avoir 10-12 ans. Il me dit, un peu solennel, il me dit, il faut que je te raconte moi aussi, mais mon premier jour en France. Marseille, l'arrivée au port, un bruissement sur le quai. On est sortis et des gens nous ont étreints. Ils avaient des paniers pleins de fruits. On ne le croyait pas et on les a suivis. On a marché le long de la Canebière et sur les balcons, des fleurs partout, des dahlias, des bégonias. Au loin, plus loin, on entendait « Bienvenue !» Bienvenue. Alors, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je l'ai regardé tétanisé. Il me dit, tu m'as cru ? Bam ! Il m'a arraché la tête. Jamais les Français ne voudront de toi. Et c'est une façon de prévention.
Oui, oui.
C'est une façon de prévention, de dire, bon, on peut le dire de manière très pédagogique aussi. Et là, vous comprenez que peut-être je vais faire gaffe à ce qu'il vient de me dire et à la mâchoire qui a bougé un peu.
Quels sont les retours des lecteurs du livre et des livres en général ? Qu'est-ce qui touche ? Qu'est-ce qui...
Moi, je sens mes lecteurs très émus parce qu'ils se disent, il est quand même un peu fou ce mec de raconter des trucs pareils, c'est-à-dire qu'il se met à dos deux camps. Il se met à dos deux camps et il vient raconter des choses absolument, absolument terrifiantes qu'un Français ne pourrait pas en dire une syllabe, tellement c'est terrifiant. Et il vient confirmer cette terreur. Et les deux camps, donc l'autre camp dit, mais pourquoi est-ce qu'il raconte ces choses de chez nous ? Ne leur raconte pas ça de nous. Et donc, évidemment, c'est évidemment toute l'excitation que d'aller là où on vous dit, ne va pas. Alors pour un peu qu'on ait une plume un peu comme ça, un peu acide comme la mienne, je sens les gens émus. Donc ça me fait très plaisir en tant qu'écrivain.
On verra tout à l'heure, puisque je vais bientôt laisser la place pour les dédicaces, mais avant pour les questions. Mais avant les questions, un petit mot de musique quand même, puisqu'il y a un album
qui va sortir en mai.
Le propre des ratures.
Le propre des ratures.
Fin mai, je suis allée me renseigner à côté au rayon disque. Ben, on peut peut-être en dire un mot.
Non, pas grand-chose. Parce que la musique est devenue anecdotique.
D'accord.
Et que je fais des albums pour donner un prétexte à me faire jouer sur scène. Et donc, c'est
l'essentiel, il est dans ce qu'on a dit
tout de suite. Oui. Mon histoire musicale, voilà, elle est lointaine désormais. Et là, c'est juste presque une espèce de stratégie pour encore dire à des gens, je monte encore sur scène pour mon plaisir. Mais sinon, les thématiques restent les mêmes. Voilà.
Ok. Eh ben merci beaucoup. Et puis on a quand même encore un petit peu de temps pour une dizaine de minutes de questions, si vous en avez, ou de réflexions sur ce qui a été dit.
Juste, je voulais vous remercier beaucoup parce que ça fait beaucoup de bien de vous écouter. Il y a un mot que vous prononcez pas et je pense qu'il faut quand même maintenant qu'on prononce, quoi. C'est le fait que votre maman, votre père étaient, par exemple, soit analphabètes. Il y a des raisons très précises quand même. Et je pense que là, ce qu'on est en train de vivre même aujourd'hui, c'est cette histoire de colonialisme qui n'a jamais cessé finalement. Alors c'est pas ressasser toujours les mêmes vieilles histoires, mais c'est à un moment donné trop de propension de la part, je pense, de nos dirigeants à dire bon, cette histoire elle est finie, on oublie. Et après d'accuser des pires maux les Français, nos concitoyens qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, sur le continent africain notamment. Parce que tous les maux qu'on traverse tout de suite, c'est toutes les problématiques postcoloniales, quoi. Faut bien quand même mettre des mots sur... Je pense en tout cas moi aussi, alors pas seulement, mais quand même. Et je pense qu'on a une responsabilité lourde, enfin nous, les citoyens malheureusement. Mais quand vous dites la gauche par exemple, alors... Moi, je l'en veux à la gauche, là-dessus, parce que quand vous parliez de Mitterrand, par exemple, c'était un homme qui avait des morts sur la conscience. Des gens qui ont été colonisés, qui ont été quand même condamnés à mort, et des gens y compris importants. Bon, et donc, je pense que la gauche, maintenant, il faut qu'elle, cette histoire-là, qu'elle s'en empare quand même, et qu'on ait enfin des représentants qui nous ressemblent, à nous, tous les Français. C'est-à-dire des gens qui sont d'origine arabe, d'Afrique subsaharienne, etc., blancs, pas blancs, enfin, et qui soient nous, quoi. Et la gauche, je pense qu'elle s'en empare pas assez de cette histoire encore, et que quand, par exemple, les fameux débats sur l'immigration apparaissent, le fait que le Sud soit encore pillé par le Nord, la gauche n'en parle jamais. Alors peut-être que je digresse un peu trop hein, par rapport à votre roman.
Non, votre analyse me convient, parce que évidemment, j'aborde pas tout. Quand vous dites oui, maman, évidemment que c'est pas le hasard. C'est pas le hasard si elle descend de sa montagne, analphabète, illettrée et perdue dans une mémoire vide. Bien sûr qu'il y a des raisons, c'est qu'on les a laissés croupir dans l'ignorance, on les a broyés jusqu'au nom. Moi, j'ai deux oncles, nous c'est chère-fille, l'autre c'est chérie-fille, l'autre c'est chère-fille, donc on est bousillés jusque dans nos identités, dans à peu près tout. Donc oui, l'histoire de la colonisation compte beaucoup dans ce désastre. De ce que sont les sociétés aujourd'hui. Et après, moi, l'espoir, c'était... Voilà, il y a la seconde génération née en France, nous. C'est là que j'ai cru, moi, j'y ai cru. En mai 81, j'ai pensé, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, que le racisme allait s'éteindre, que la fraternité allait quasi recouvrir la surface de la Terre. Et puis, on était... parce que les beurs, il y a 40 ans, c'était 99% de jeunes qui portaient à gauche. Aujourd'hui, s'il y en a 15, c'est beau. Donc, faut voir un peu ce qui s'est passé, quoi. Et c'est pour ça que je racontais tout... J'égrène tous ces noms et tous ces discours qui ont fait la déflagration. Il n'y a donc pas de camp pour nous. Et alors, voilà, il n'y a pas eu avec l'arrivée de ces gens nés en France et ayant adhéré, on va dire, aux valeurs républicaines pour résumer, il n'y a pas eu l'amorce d'un récit. C'est-à-dire, grosso modo, c'est quoi français, c'est quoi? Et 40 ans après, on en est encore à préconiser le lourd patrimoine de millénaires, Pépin le Bref, Vercingétorix, la Croix, le truc, la France, millénaire, etc. Et de ne pas comprendre que l'arrivée d'autres apports n'est pas forcément éteindre le premier. C'est une espèce de mix, comme, parce que moi, j'aime autant ma montagne kabyle, par exemple, que Clovis. J'ai l'impression qu'il fait partie de mon histoire, etc. Et ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que la gauche n'a pas réussi à amorcer un récit qui aurait évité cette terreur d'autant de Français de se dire « on est noyé par quelque chose, on perd quelque chose ». On perd notre âme, notre identité. Et je pense que ça se passe là. Et des deux côtés, il y a la terreur de perdre une supposée identité. Et les membres de 15 ans devenus musulmans aujourd'hui, je pense que c'est aussi la terreur d'être désincarné. Et donc on regarde qu'est-ce qui est proche, un frisé, un Mohamed, un parfum, une prière, l'Orient, le Moyen-Orient. Et les tarés qui sont partis là-bas, ils sont partis chercher des frères. Et pour les pires d'entre eux, évidemment, pour commettre l'innommable. Mais il y a cette idée d'une fraternité, c'est donc qu'elle n'existe pas en France. Voilà, donc il y avait pour moi ces deux choses. C'est-à-dire que l'avant, nous, et puis la chance ratée à partir de ceux qui sont nés en France et qui étaient, c'est pour ça que j'ai insisté sur nos ancêtres les Gaulois, quelque chose eût pu fonctionner avec nos ancêtres les Gaulois. Je vous en prie.
Vous avez fait un livre sur votre mère, vous pensez en faire un sur votre père et sur vos frères et sœurs. Ils en ont peut-être pas envie.
Vous voulez que je me fâche? Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement douloureux, je dois vous le dire, c'est vraiment pas rigolo. Ils sont terrorisés de par ce qu'on a vécu. Ils savent qu'on a eu peur, ils savent qu'on a eu peur d'être un peu comme nos parents, parce que nos parents nous ont infusé la rancœur. Parce qu'ils ont eu une rancœur. Quand Mitterrand arrive, nous on vient, enfin, en 83, on vient réclamer l'égalité des droits. Mitterrand, il propose une carte de séjour. Hey, vous vous rendez pas compte? C'est-à-dire un sas de 10 ans pour vérifier la solubilité de l'arabe dans la République. Mais vous êtes fous, vous venez de tout détruire. Alors que offrez des cartes d'identité à volonté. Montrer à nos parents quelque chose qui fasse qu'ils aient de l'empathie pour la République, et ils nous auraient donc infusé une empathie. Et moi, je dois vous dire, moi qui suis, espèce d'exemplarité de chire de république, de valeur de la république, j'ai une colère anti-française, bien sûr. Alors on ne l'étale pas comme ça. Il y a une rancœur qui a été infusée. Et je crains de l'avoir infusée à mes propres enfants, parce que quand ils me disent « mais t'es sûr qu'on a notre place ?» Je regarde leur visage, leur nom, leur prénom, et juste ce petit soupir. Il infuse. Ah d'accord, ouais, tu nous demandes, alors moi je leur pète pas les dents, mais tu nous dis qu'on a intérêt à faire gaffe. Et oui, oui. Et donc c'est déjà le désastre à venir qui est annoncé. Vous vouliez que je vienne, je suis venu. Non, parce qu'ils ont été très sympas à l'accueil, mais je ne leur ai pas dit, pour après, vous ne me réinviterez pas dans 3 ans pour l'histoire de papa.
Bonsoir. Quand vous avez commencé à faire de la musique et que donc le Zebda a commencé à fonctionner et tout ça, votre maman notamment, comment elle a réagi? Parce que j'imagine que c'était pas ce qu'elle attendait de vous. Elle attendait que vous fassiez des hautes
études. C'était pas ce qu'elle attendait de moi.
Et oui.
Et donc pendant des années, ils ont cru que j'étais à la fac du Mirail en train de faire mes universités en lettres modernes. Et mon père avait même dit, si je le vois chanter, crac crac, il achète un fusil. Et bien sûr que je l'ai planqué pendant des années, ne serait-ce que pour pas le blesser son cœur, puisqu'il s'agit de ça en fait. Toujours cette République qui nous dit « mais pourquoi vous tant de résistance à être français ?» On a nos parents. Et ils sont blessés, ils disent « non, ne nous quittez pas !» Et donc c'est le grand reproche à cette République qui fait des lois et des lois d'égalité, de contre tous les racismes, tous les antisémitismes, tout ce qu'on veut. Oui, mais et l'étreinte, en pensant à cette République. Donc oui, j'ai été planqué longtemps.
Vous qui êtes allé dans des classes, du coup, voir les jeunes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est arrivé à un point de non-retour? C'est-à-dire que même si on offrait la possibilité du jour au lendemain, comme par magie, de les accepter en tant que Français, est-ce qu'ils l'accepteraient, eux, ou justement on est à un point vraiment où c'est pas possible?
Pour les convaincre qu'ils sont devenus une évidence française, c'est pas fait. Ils ne seront pas convaincus. Je me demande qu'est-ce qu'il va falloir casser comme mur, ébranler comme monde pour leur faire croire qu'on les prend pour des Français. Donc le retard a été accumulé depuis... Alors moi, évidemment, ma référence historique, c'est mai 81. Peut-être d'autres en ont d'autres. Donc ça fait, ça fait un moment. Ça fait un moment et... Je vois pas trop. Je vois pas trop comment on va pouvoir faire nation. Donc là, c'est un peu comme s'il y avait deux nations qui se côtoyaient. On se dit, bon, pour l'instant, on n'en vient pas aux mains. On voit quel compromis on fait. Et c'est pas facile, hein, parce qu'il faut déjà, pour infuser une empathie française, républicaine, aussi cosmopolite soit-elle, franchement, moi-même, je ne m'aventure pas trop. Je suis un peu désespéré, malheureusement.
On ne peut pas finir sur ce mot-là, faut trouver.
Mais pourquoi pas? Moi je trouve ça bien. Tiens, il nous a terrorisés, maintenant on rentre à la maison et on prend 2 cachetons.
Mais du coup, vous n'avez pas envie de faire un livre sur vos enfants ou je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, mais du coup, ça vous donne
voilà,
envie.
Voilà, vous voulez une note d'espoir.
Voilà.
Écoutez, alors évidemment, moi je ne suis pas représentatif de cette jeunesse de la banlieue parce qu'il y a toujours dans ces quartiers populaires des trajectoires exceptionnelles, positives, il y en a. Le problème, c'est l'immensité qui est sur le bas-côté. Donc moi, je ne suis pas représentatif parce que j'ai eu une vie un peu privilégiée, j'ai rêvé de vivre de l'écriture, de l'art, de la musique, etc. Donc je ne suis pas significatif, mais je peux vous dire que mes enfants sont ma récompense absolue parce que ils ont les codes, ils ont des armes, ils sont armés, ils ont eu une vie privilégiée, bien plus privilégiée que la mienne, voilà, et donc je me retrouve avec deux potes, un peu deux intellos de base comme ça. Hier j'étais avec l'un à Paris, on a refait le monde, de ce côté-là, je suis très optimiste, mais ce ne sont que mes enfants.
Bon, ça nous va mieux comme...
Ça va mieux, c'est vrai. Merci madame, vous avez rehaussé le truc.
Oui, bonsoir. Donc vous évoquiez la pudeur d'une partie de votre famille par rapport à ce que vous écrivez, ce que vous dites. Alors moi, je tenais à vous remercier plutôt parce que quand on a un destin un peu comme le vôtre et qu'on est aussi un fils d'immigré, ça fait du bien d'entendre des gens qui évoquent des choses qui relèvent parfois du tabou, le fait d'avoir des parents illettrés, etc., ce que l'on peut ressentir. Après vous avoir lu, notamment, j'ai cru comprendre que vous aviez parfois honte de votre mère parce que l'accent, la tenue, le fait qu'elle ne sache pas écrire, qu'elle ne sache pas accomplir certaines démarches en public, etc. Et c'est vrai que quand on est fils d'immigré, c'est des choses que l'on n'évoque jamais avec les autres parce qu'effectivement, on est confronté à cette honte-là. Et le fait d'avoir des gens comme vous qui, justement, brisent un petit peu ce tabou et évoquent ce quotidien qui, finalement, n'est pas forcément partagé, je peux vous dire que ça fait du bien, voilà. Donc je voulais vous remercier.
Merci.
Et ben je.
Bon, puis après il y a écrire. Écrire doit avoir une. Il faut que ça ait du sens. Donc il y a ce privilège quand on est dans cette situation-là d'avoir toutes les raisons d'écrire, puisque on vit sous des, voilà, sous des chapes. Impressionnante.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je vous laisse pour les dédicaces. Faut écrire maintenant.
Merci à tout le monde.